VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Confinement au Nigeria, les forces de sécurité accusées d'avoir tué 18 personnes qui ne respectaient pas les consignes de sécurité. Prolongation de la suspension des vols au Sénégal, confinement général en Libye, nous ferons le point sur la pandémie de coronavirus sur le continent. Dans le monde, avec plus de 2 millions de cas, l'Europe reste le continent le plus touché. Mais c'est toujours aux États-Unis que la pandémie progresse le plus rapidement. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Selon la Commission nationale des droits humains au Nigeria, les forces de sécurité ont commis 105 actes de violation des droits de l'homme et tué 18 personnes accusées de ne pas respecter les mesures de confinement instaurées dans plusieurs États depuis le 31 mars. Nathalie Barge.
Cet organe officiel accuse les forces de sécurité d'un usage disproportionné de la force, d'abus de pouvoir, de corruption et de non-respect des lois nationales et internationales. Estimant que la commission reste trop générale dans ses accusations, le porte-parole de la police, Frank Mba, a regretté l'absence de détails, notamment les noms des victimes et les lieux des incidents. Il a affirmé que les coupables d'abus seront punis, tout en soulignant qu'une information plus complète est nécessaire pour prendre des sanctions adéquates. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de violences policières où l'on voit les forces de l'ordre tabasser la population ou détruire des étals de marché ont fait scandale dans le pays.
Toujours au Nigeria, 14 personnes ont péri aujourd'hui lors d'un incendie dans un camp abritant des dizaines de milliers de déplacés par les violences du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. L'incendie s'est déclaré dans la matinée dans ce camp d'environ 70 000 déplacés, situé dans la ville de Gamboru, dans l'état de Borno, près de la frontière avec le Cameroun. Coronavirus en République démocratique du Congo, l'entourage du président Tshisekedi a enregistré un nouveau décès lié à l'épidémie avec la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, oncle et proche collaborateur du chef de l'État, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Évêque à Mweka, dans le Kasaï, pendant 28 ans, Gérard Moulumba, frère d'Étienne Tshisekedi, avait été nommé en mai 2019 chef de la maison civile du chef de l'État. Le gouvernement de Tripoli annonce un confinement général en Libye, alors que le Sénégal prolonge la suspension de tous les vols au moment où le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine prévoit de distribuer à partir de la semaine prochaine 1 million de tests pour dépister le Covid-19. Le point sur le coronavirus en Afrique avec Jacques Aristide.
Depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le directeur de ce centre, le docteur John Nkengasong, affirme qu'il y a un fossé important sur le continent en ce qui concerne les tests. Il faut faire quelque chose, dit-il. Le coronavirus est arrivé tardivement en Afrique, mais il s'enracine progressivement avec désormais plus de 17 000 cas et 911 morts recensés sur le continent. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun comptent le plus de cas déclarés. De son côté, le Sénégal a prolongé jusqu'au 31 mai la suspension de tous les vols au départ et à destination de son territoire pour contenir le Covid-19, a indiqué le ministre des Transports, Alioune Sarr. La suspension concernait le transport de passagers et non de fret quand elle a été annoncée mi-mars. En Libye, le gouvernement d'Union nationale annonce un confinement général de 10 jours dans les zones qu'il contrôle dans l'ouest du pays, dont la capitale, Tripoli, afin de limiter la propagation de la maladie. Un couvre-feu de 24 heures entre en vigueur ce vendredi. Cette mesure ne s'applique pas à l'est du pays, contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar, ainsi qu'à une grande partie du sud qui échappe au contrôle des deux camps rivaux.
La Côte d'Ivoire est en train de libérer 2000 personnes en fin de peine ou ayant commis des infractions mineures. Le pays compte 20 000 détenus pour 7 000 places dans ses 33 prisons. Il faut à tout prix maintenir le Covid-19 hors des prisons ivoiriennes, affirme le directeur de l'administration pénitentiaire, Boubacar Koulibaly. La Côte d'Ivoire est relativement peu touchée, avec 654 cas et 6 décès, selon le dernier bilan officiel mercredi. Au Malawi, les petits commerçants ont dénoncé le confinement anti-coronavirus imposé à partir de samedi à tout le pays. Ils ont prévenu qu'ils ne pourront pas le respecter pour des questions de survie. Plusieurs milliers d'entre eux ont défilé aujourd'hui dans les rues de Mzuzu, dans le nord. Le président Peter Mutharika a ordonné à ses compatriotes de rester chez eux à compter de samedi et pour au moins 3 semaines pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19. L'Éthiopie s'apprête à fermer un camp de réfugiés érythréens et à réinstaller des milliers d'entre eux dans des camps. Le camp de Itsat est l'un des 4 camps de la région du Tigré qui abrite au total près de 100 000 réfugiés venus d'Érythrée, selon l'ONU. Début mars, les autorités éthiopiennes avaient informé le HCR de leur intention de fermer ce camp, Itsat, mais cela avait été retardé après l'apparition des premiers cas de Covid-19 à la mi-mars. Au Soudan, des dizaines de partisans de l'ex-président Omar el-Béchir ont manifesté aujourd'hui devant le siège de l'armée à Khartoum. Non au gouvernement de Hamdok et non au gouvernement de la faim, pouvait-on notamment lire sur les pancartes des protestataires, selon un témoin. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes. En proie à une grave crise économique, le Soudan compte aujourd'hui une inflation annuelle autour de 70%. Le prix du pain a été augmenté la semaine dernière par les autorités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 2 millions de cas de coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, avec plus de 138 000 décès. Eric Manirakiza.
L'Europe reste le continent le plus touché. La pandémie de coronavirus a tué plus de 90 000 personnes, soit plus de 65% des décès dans le monde. L'Italie et l'Espagne sont les pays les plus atteints, suivi de la France et du Royaume-Uni. L'OMS Europe a ainsi exhorté les pays à ne pas baisser la garde et à s'assurer que le virus est sous contrôle avant la levée des restrictions. La Chine, où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré 82 341 cas, dont 3 342 décès. Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé l'extension de l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel nippon. La semaine dernière, il avait déclaré l'état d'urgence jusqu'au 6 mai pour 7 des 47 régions du pays. Enfin, l'OPEP anticipe pour 2020 un effondrement de la demande mondiale de pétrole en raison de la paralysie économique planétaire, confirmant jeudi un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire pour le marché de l'or noir.
Les États-Unis continuent de payer le plus lourd tribut dans la pandémie du Covid-19, avec près de 31 000 décès pour 640 000 cas. Le point avec Abdourahmane Dia.
Malgré ces chiffres alarmants, les autorités américaines affirment que le nombre de nouveaux cas continue de se stabiliser. Le président Donald Trump va annoncer cet après-midi de nouvelles recommandations pour la distanciation physique. Il a annoncé que certaines parties du pays pourraient reprendre leurs activités d'ici début mai. Certains gouverneurs ont déclaré que la réouverture de l'économie dans leurs États dépendrait de la situation sur le terrain. Le gouverneur de New York, l'État le plus touché du pays, va prendre un décret obligeant quelques 20 millions d'habitants à se couvrir le visage à l'extérieur dans des situations où respecter la distance réglementaire est impossible, comme les transports en commun. Plusieurs gouverneurs ont déjà pris des mesures similaires. Les États-Unis ont enregistré la semaine dernière 5,2 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le Département du Travail, ce qui porte à plus de 20 millions de chômeurs, une première dans le pays depuis mi-mars.
Alors que le président américain doit présenter jeudi ses directives pour rouvrir l'économie américaine, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a souligné que la première ville américaine, épicentre de l'épidémie, ne se remettrait pas seule des pertes de revenus générées par l'arrêt de l'économie depuis la mi-mars. Il a chiffré ses pertes à 7,4 milliards de dollars à ce stade, pour un budget annuel de quelque 89 milliards. Il a lancé un appel à l'aide à Donald Trump. « Aidez-nous financièrement ou vous n'aurez pas de reprise nationale », a-t-il prévenu, en joignant le président américain à débloquer des milliards de dollars d'aide fédérale pour aider la capitale financière à surmonter les conséquences de la pandémie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
Dans le cadre de son budget 2020, la Tunisie prévoit d'émettre des obligations d'une valeur maximale de 800 millions d'euros, mais dont on ne connaît pas encore les détails ni la date. Selon l'agence Reuters, le FMI a également déclaré dans un rapport que la Tunisie recherchait une garantie de prêt d'un pays du G7. Si une telle garantie ne se concrétisait pas, le pays devrait rechercher un financement alternatif qui pourrait impliquer un prêt syndiqué auprès des banques internationales. Le ministre sud-africain des Finances, Tito Mboweni, exclut un programme d'ajustement structurel du FMI, mais a déclaré que la pandémie de COVID-19 provoquerait une profonde récession. La Banque centrale sud-africaine a abaissé de façon inattendue son principal taux débiteur de 100 points de base à 4,25%, une autre tentative visant à limiter les retombées économiques du coronavirus. Pour terminer, les exportateurs africains de pétrole peuvent s'attendre à une contraction de 2,8% cette année, indique un rapport du FMI. Les autres économies à forte intensité de ressources reculeront de 2,7%. La croissance des pays aux ressources faibles devrait baisser à 2%. Les pays tributeurs du tourisme, dont le Cap-Vert, les Comores, la Gambie, Maurice, Sao Tomé et Principe et les Seychelles, devraient connaître une contraction de 5,1%.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Le basketteur congolais des Charlotte Hornets, Bismack Biyombo, met 1 million de dollars dans le panier congolais de la lutte contre le coronavirus dans sa République démocratique du Congo natal. Il a fait, par l'intermédiaire de son organisme de bienfaisance, la Fondation Bismack Biyombo. Le matériel offert comprend 10 000 masques et 780 combinaisons de protection. Voir mon pays d'origine souffrir à ce titre est dévastateur, a déclaré le basketteur. En 53 matchs avec les Charlotte Hornets cette saison, Biyombo a une moyenne de 7,4 points et 5,8 rebonds par match. En football, deux derbys africains classés dans le top mondial des 30 rencontres footballistiques les plus bouillantes de la planète. D'après une étude réalisée par le magazine britannique 442, le derby du Caire qui oppose Al Ahly aux Zamalek et celui de Casablanca qui met aux prises le Raja et le Wydad font partie des 30 meilleurs au monde. Le choc de la capitale égyptienne est classé 10e et celui de Casablanca arrive à la 26e position. Grosse surprise, le classico espagnol Real Madrid-FC Barcelone n'est pas le premier mais plutôt le deuxième devant le derby d'Écosse entre le Celtic et les Rangers, classé 3e. Le derby des deux plus grands clubs de Buenos Aires, Boca Juniors et River Plate, occupe la première place. On retrouve dans le top 10 le derby romain Rome-Lazio, le derby d'Istanbul-Fenerbahçe-Galatasaray, le plus grand derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United, ainsi que le derby allemand de la Ruhr entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund. En Europe, justement, la Fédération française de football annonce l'arrêt définitif de l'ensemble de ses championnats amateurs et de jeunes. Cette décision concerne les ligues régionales, les districts, les championnats nationaux du National 3, du National 2, de la 2e division féminine et de futsal et des championnats nationaux de jeunes. La Fédération française de football n'a cependant pas tranché le sort du National 1 et de la 1ère division féminine. La Ligue de football professionnelle espère par contre pouvoir reprendre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dans les semaines à venir. Les demi-finales et la finale de la Coupe de France féminine, ainsi que la finale de la Coupe de France masculine qui doit opposer le Paris Saint-Germain à Saint-Étienne, seront prochainement reprogrammées. Et puis le Sporting Portugal a placé 95% de ses salariés au chômage partiel pour soulager ses finances fragilisées avant même l'arrêt du championnat. Cette décision fait suite aux baisses de 40% des salaires des joueurs et de l'encadrement de l'équipe première. Le club de Lisbonne se trouvait déjà dans une situation délicate au plan sportif et économique avant le début de la pandémie qui paralyse le sport mondial. Le Sporting Portugal occupait le 4e rang du championnat avec 18 points de retard sur le leader, le FC Porto, avant l'interruption des compétitions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Mali, 148 personnes ont été déclarées positives au coronavirus, dont 13 décès et 34 guérisons, selon le dernier bilan en date du 15 avril. Les autorités sanitaires insistent pour que les Bamakois se déplacent le moins possible, respectent les mesures barrières et portent un masque de protection. La capitale malienne est l'épicentre du Covid-19 au Mali. Les mesures de prévention face au coronavirus sont-elles respectées à Bamako? Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré à Bamako.
Face au coronavirus, la sensibilisation est devenue quotidienne pour le personnel sanitaire à travers la capitale qui est aujourd'hui infectée. Docteur Abdoulaye Guindo, directeur national adjoint de la santé.
Il va bien entendu du lavage de mains au savon ou bien entendu avec l'eau hydroalcoolisée, de respecter la distanciation sociale et aussi de porter les masques. Encore une fois, d'éviter les regroupements, en tout cas à cette période bien spécifique, pour en tout cas limiter la propagation, bien entendu, du virus.
Les mesures prises par le gouvernement malien concernent plusieurs secteurs de la vie économique et sociale, ce qui fait que les activités sont au ralenti par endroits.
Les gens se regroupent souvent. On a mis en place des dispositions pour qu'on ne se regroupe pas, pour qu'on ne se regroupe plus comme avant.
Les églises sont fermées, mais malgré tout, les mosquées, un grand nombre de mosquées restent encore ouvertes.
Bien. Si les autorités religieuses peuvent respecter au moins les 50 personnes, pour ne pas dépasser 50 personnes là, bon, bien sinon, les bars que moi je connais, toutes ces bars sont fermées quand même.
Malgré le couvre-feu, l'état d'urgence sanitaire, la réduction des horaires de travail à Bamako, dimanche demeure toujours le jour de mariage.
J'ai vu que malgré que l'état a décrété cela, de ne pas se regrouper, bon, au moins jusqu'à 50 personnes, mais aujourd'hui, je peux constater que même les dimanches, il y a toujours les mariages qui se font dans les quartiers et on ne peut pas compter le nombre. C'est toujours comme d'habitude. Les gens n'ont pas pris conscience à la situation qui se passe aujourd'hui.
Pour atténuer la souffrance des Maliens, 500 milliards de francs CFA seront débloqués par le gouvernement malien.
Comme on a si bien dit, au Mali ici, les gens ne font pas confiance à l'autorité. Il faut qu'ils essaient de bien gérer vraiment ces fonds-là, vraiment, parce que il n'y a pas de suivi au Mali. Donc quand on dit de vraiment faire une gestion au Mali, c'est tout à fait un problème. Sinon, l'argent quand même que le président a déclaré, je pense que c'est 500 milliards. Voilà, 500 milliards de nos francs. Je crois que c'est pas suffisant pour vraiment aider à 100% les Maliens dans cette situation-là. Mais ça peut faire quelque chose si on essaie de bien gérer.
Avec la situation du coronavirus, sans être visé par qui que ce soit, les Chinois qui sont en majorité des responsables de bars ou autres maisons closes les ont fermés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé plusieurs mesures pour la lutte contre la propagation du coronavirus. Entre autres mesures, la prise en charge par l'État des factures pour la consommation d'eau pour 6 mois et d'électricité pour 3 mois à compter d'avril 2020, ainsi que la création d'un fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables. André Komadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Cette déclaration du chef de l'État, elle est vraiment attendue par les citoyens consommateurs qui font face aujourd'hui à beaucoup de défis.
Daouda El Hadj Adam, secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs. Ces mesures, selon lui, concernent uniquement la consommation du premier niveau considéré comme la tranche sociale. 300 kW de consommation d'électricité pour 3 mois et 90 mètres cubes de consommation d'eau pour 6 mois, soit respectivement 150 kW et 15 mètres cubes par mois. Daouda El Hadj Adam entend faire le suivi pour la mise en œuvre effective de ces mesures.
Suivi, d'abord, contribuer à la sensibilisation des citoyens consommateurs sur le respect de leur consommation dans la limite de la tranche sociale pour ne pas abuser et pour se retrouver éventuellement dans des situations conflictuelles avec la SE, mais veiller aussi pour qu'il n'y ait pas de désagréments dans la facturation. Parce que entre la déclaration du chef de l'État et la mise en œuvre, il faut vraiment être vigilant.
Pour Moussa Mahamat Mahdi, président de la dynamique citoyenne pour la protection des droits des consommateurs, la priorité en ce temps de crise sanitaire est ailleurs.
Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que les gaz commencent à se raréfier et qu'il faut au moins mettre un dispositif pour permettre aux ménages d'avoir accès à ces moyens comestibles. En N'Djamena, vivre dans les locations, c'est une traversée du désert. Donc, je lance un appel au président de la République pour qu'il demande à tous les bailleurs de ne pas prendre le loyer durant 6 mois pour permettre à tous les Tchadiens d'avoir un bol d'oxygène. Quand ils se lancent dans les mesures, par exemple, eau et électricité, lesquels qui utilisent eau et électricité? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Quand vous prenez premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, nous n'avons pas de l'eau.
En plus de ces mesures d'accompagnement, le président Déby annonce la mise en place d'un fonds national de solidarité et de soutien de 100 milliards de francs CFA pour assurer un accès aux secours alimentaires d'urgence aux populations vulnérables sur l'ensemble du territoire national en associant les organisations humanitaires. L'universitaire Dr Sitak Yumbatina Béni propose d'associer aussi les leaders d'opinion dans une structure ad hoc qui sera mise sur pied pour gérer ce fonds et insiste sur le travail préalable.
Le travail préalable, c'est que déjà, est-ce qu'on a des données par ménage? On a eu quelques recensements de la population dans ce pays. Le dernier date quand même de 2009, c'est quand même loin. Ensuite, d'identifier les leaders, c'est par exemple les chefs de carré, les chefs d'arrondissement, les chefs de village, dans le cadre, n'est-ce pas, de telles initiatives, mais aussi en même temps également, les autorités subsidiaires. C'est elles qui donnent, n'est-ce pas, prendre cette histoire en main, comment on va distribuer et comment assurer, n'est-ce pas, le sujet pour que ce fonds ne puisse pas être capté, encore une fois de plus, parce que nous sommes dans un pays où vous avez des individus qui ont, n'est-ce pas, pris la place de l'État et qui imposent leurs lois.
Selon le ministère de la Santé publique, du 19 mars au 15 avril, le Tchad enregistre 27 cas confirmés de coronavirus, dont 5 guéris et 0 décès. Selon nos sources, quelques personnels soignants en contact avec les malades ont été également déclarés positifs. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les autorités du Congo-Brazzaville aussi ont décrété la gratuité de l'eau et de l'électricité en cette période de confinement, car le pays compte 117 cas de Covid-19 confirmés au 15 avril. Sauf que la gratuité de l'électricité n'améliore pas le service et les populations se plaignent des coupures intempestives de courant dans leurs maisons où elles sont censées conserver des provisions. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Pour de nombreux Brazzavillois, la gratuité de l'eau et de l'électricité n'est qu'un cadeau empoisonné. Les coupures intempestives du courant rendent insupportable le confinement décidé par les autorités.
Nous vivons cette mesure comme à l'accoutumée d'ailleurs, avec les délestages imprévisibles et incessants qui se sont d'ailleurs accentués pendant cette période.
Nous sommes en train de vivre une situation assez compliquée, avec une électricité qui vous est fournie presque un jour sur 5. Donc toutes les réserves que vous avez, de nos trucs que vous avez faites, se décomposent.
On ne peut pas être satisfait de l'électricité à Brazzaville parce qu'on sait qu'il y a toujours des problèmes. Et combien de fois pendant cette période de confinement, parfois vous avez des émissions à attendre, comme on n'est plus accro à la télé, vous avez des documents à écrire la nuit et bon, brusquement ça va.
Saluant la mesure prise par le gouvernement, l'ancien ministre Alain Akualin nourrit quand même la crainte de rappel de factures une fois la crise sanitaire passée.
Est-ce que l'État aura les moyens de faire face justement à cette gratuité? C'est une responsabilité souveraine. Il ne faut pas que ça soit un report simplement des factures que les populations devront payer. Si la gratuité de l'eau et l'électricité ne puisse pas aboutir ensuite à une espèce de rappel de facture de la part de ces entreprises, c'est une mesure qu'il faut saluer.
Il y a 2 mois, le gouvernement avait mis en service à Pointe-Noire une 3e turbine à la centrale à gaz de Djeno pour un coût d'environ 1,5 milliard de dollars. Brice Makosso, membre de la société civile, s'interroge sur l'impact d'un tel projet sur la vie des populations.
Nous faisons un constat que le gouvernement a suffisamment investi dans les infrastructures électriques, mais que principalement dans les deux grandes villes, qu'il n'y a pas toujours d'électricité. Nous avions investi à peu près 1,5 milliard de dollars pour cette centrale à gaz. Et effectivement, nous nous interrogeons sur l'impact que cela a sur l'économie congolaise et sur la vie des populations congolaises. Et au final, nous demandons un audit.
Jean Adou Ndanga, directeur général de la société Énergie électrique du Congo, justifie les délaissages récurrents dans les villes congolaises.
Mais les délaissages, oui, mais on prend toujours des dispositions. Un délaissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poste est surchargé, on enlève quelques clients pour un temps, on alimente d'autres, et après, on élimine d'autres, et ainsi de suite. Donc, il ne peut pas rester 24 heures dans l'obscurité sans électricité. Ce n'est pas possible. Le délaissage, c'est 8 heures. Après 8 heures, si ce n'est pas ça, donc il y a défaillance.
Avec 117 cas déclarés, 11 guéris et 11 décédés, bilan du 15 avril, le Congo-Brazzaville va poursuivre son confinement jusqu'en fin avril. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 120 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, dans la ville de Wuhan. Les habitants de cette région, confinés pendant des semaines, sont désormais autorisés à reprendre certaines activités, mais pas toutes. Comment les étudiants africains en Chine ont-ils vécu cette crise? Bagassi Koura a joint à Wuhan Jean-David Coyer, étudiant ivoirien en information et communication.
Bon, il y en a qui réussissent à sortir, mais le confinement n'est pas totalement levé. On est encore pour certains à la maison. Oui.
Et vos cours ont repris?
Non, c'est des cours en ligne.
Et est-ce que vous arrivez à aller au restaurant, à sortir, marcher dans la rue?
Non, c'est ce que je disais précédemment. Je disais que la quarantaine n'a pas été vraiment levée pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes apparemment, mais tout le monde ne peut pas sortir. Ça dépend aussi des quartiers.
Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que vous avez des problèmes de ravitaillement, par exemple?
Bon, actuellement, non. Pas vraiment, mais c'est que, bon, comme on ne peut pas sortir... par exemple, commander, c'est un peu plus cher, bien calé, par exemple, au supermarché ou au marché directement. Donc, c'est le prix un peu problème, quoi, mais il y a vraiment plus de problèmes de ravitaillement en ce qui concerne Wuhan.
Alors, vous avez été au cœur de toute cette épidémie depuis le début en décembre. Et en Afrique notamment, on cite la Chine comme exemple. Qu'est-ce que vous en diriez? Comment ça s'est déroulé?
Je pense qu'ils ont réussi à endiguer le coronavirus d'une manière assez remarquable, avec la discipline et le mode de vie ici, par rapport au confinement, la manière dont les résidents sont structurés, ça a été plus facile de faire un confinement par rapport aux autres pays, je pense. Donc je pense que c'est cet avantage-là qu'ils ont. Et au-delà de ça, ils ont opté pour les masques dès le début, et c'est ce qui a vraiment contribué à gérer la situation et à leur permettre de lever la quarantaine à Wuhan, même si c'est partiel, voilà, aujourd'hui.
Et est-ce que vous avez une idée quand est-ce que les cours vont reprendre?
Je pense que les cours ne vont pas reprendre ce semestre. Les cours physiques, je veux dire. Je pense qu'ils vont reprendre en septembre, parce que on a eu des mails qui disaient que le semestre sera en ligne, donc je pense que personne ne va retourner au campus d'ici septembre.
Jean-David Coyer, étudiant ivoirien en information et communication à Wuhan, en Chine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.